Comment faire pour accélérer la croissance d'une entreprise? Quelles sont les meilleures stratégies pour y arriver? Les pièges à éviter? À chaque épisode, je vous partage une conversation que j'ai eu la chance d'avoir avec un entrepreneur ou un professionnel du marketing sur le sujet. Vous allez découvrir les secrets qui se cachent derrière leur succès. Je m'appelle Robin Vézina et bienvenue sur Hypercroissance. Aujourd'hui, je suis très content de vous présenter Jacob Charbonneau. Donc, Jacob, c'est le fondateur de Vol en retard. Vol en retard, ce que c'est une entreprise qui vous permet de faire une réclamation et vous donne droit à une compensation monétaire si vous êtes victime d'un vol en retard. Donc, au lieu de passer, je sais pas, une ou deux journées à remplir la paperasse, à savoir comment ça fonctionne, faire votre réclamation, vous allez tout simplement sur Vol en retard, vous remplissez un petit formulaire, ça vous prend 4-5 minutes. Et si vous êtes éligible à une compensation monétaire, vous allez le recevoir. Il y a seulement un petit pourcentage qui va aller à Vol en retard. Donc, ça vous permet d'économiser beaucoup de temps et ça vous permet d'aller chercher de l'argent peut-être que vous saviez même pas que vous avez droit. Donc, super entreprise, une entreprise quand même innovante. C'est pourquoi que l'entreprise à l'heure actuelle grossit extrêmement rapidement. On parle d'une croissance mois après mois de 300 à 500 %. Donc, on peut vraiment dire que Vol en retard a le vent dans les voiles sans faire de mauvais jeu de mots. Donc, dans ma conversation aujourd'hui, vous allez apprendre comment Jacob a réussi à transformer un problème en une entreprise. Une histoire assez intéressante. Ensuite, vous allez découvrir l'ampleur que les médias traditionnels peuvent avoir sur votre entreprise si vous osez prendre la parole publiquement. Donc, les médias traditionnels sont une bonne façon de faire pour Jacob pour se faire connaître et faire connaître son entreprise. Et finalement, Jacob va nous expliquer comment il a fait pour construire une entreprise sans avoir aucune expérience en entrepreneuriat au préalable et comment il a fait pour aller s'entourer de key players. Donc, quand on n'a pas d'expérience, aller chercher les bonnes personnes est crucial et Jacob est en mesure de le faire. Donc, sans plus tarder, voici l'entrevue avec Jacob Charbonneau de Vol en retard. Bienvenue sur le podcast Hyper Croissance, Jacob de Vol en retard. Bienvenue.
Bienvenue. Merci. Merci, Robin.
Donc, je suis vraiment enchanté d'être avec toi, Jacob, aujourd'hui. Vol en retard. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que Vol en retard?
Oui, ben en fait, volenretard.ca, c'est une plateforme qui permet aux gens de faire des demandes de réclamation suite à des retards de vol, des annulations ou des refus d'embarquement. Donc nous, derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher les indemnisations qui sont prévues au niveau de la loi. Donc, par exemple, un vol qui a été retardé de 3 heures peut donner le droit à 900 $ canadiens.
Et Vol en retard, c'est un projet que toi t'as lancé, t'es le fondateur. Si tu nous racontes un petit peu d'où vient finalement l'idée de Vol en retard, comment t'es tombé sur cette idée-là d'entreprise?
Oui, mais en fait, moi, je viens du monde aérien, donc j'ai travaillé pour une grande ligne aérienne pendant près de 8 ans. Puis l'idée est venue lors d'un parcours au MBA exécutif à l'Université de Sherbrooke, où un collègue qui avait voyagé en Europe est allé voir sa famille, est revenu, puis a subi un retard important, ne savait pas trop quoi faire, il est venu me voir, puisqu'à l'époque, je travaillais pour une ligne aérienne. Puis je lui ai dit qu'il avait le droit à une indemnisation. Donc, il a tenté de faire les démarches par lui-même, puis c'est revenu refusé alors qu'il avait le droit à cet argent-là. Évidemment, je trouvais pas ça juste que les lignes aériennes gardent tout cet argent-là simplement parce que les gens n'étaient pas au courant. Puis quand on a regardé le potentiel de marché au Canada, c'était un potentiel qui était énorme et il y avait aucun joueur qui informait les passagers de leurs droits. Donc, on a un peu pris cette mission sociale-là d'informer les gens, de défendre les consommateurs, puis on a lancé l'entreprise près d'un an après le MBA.
Donc toi, c'était littéralement ta première entreprise, c'est Vol en retard.
Exact. Par contre, on s'est bien entouré. Donc, j'ai des collègues du MBA. On l'a pitché au MBA dans un cours d'innovation sur les modèles d'affaires. Les gens étaient très intéressés. Ensuite de ça, il y a des collègues du MBA qui ont cofondé l'entreprise avec moi.
Donc, si tu, justement, on regarde, on explore un petit peu cette partie-là. Donc, l'idée t'est venue, te lancer ça. Corrige-moi, c'est en 2016, right?
Exact.
Donc, en 2016, tu as lancé Vol en retard. Donc, ça nous amène, bon, 2 ans plus tard, ça fait 2 ans que tu as lancé l'entreprise. Est-ce que tu seras en mesure peut-être de nous raconter les moments forts ou les points tournants dans Vol en retard depuis les 2 dernières années?
Ben oui, en fait, ce qui est intéressant, quand on a lancé l'entreprise, la journée qu'on l'a lancée, c'est deux pilotes, Yves qui s'était fait prendre à bord d'un avion sur un vol européen. Donc ça avait fait le tour des médias, puis nous on venait juste de lancer l'entreprise, donc on a répliqué un peu dans les médias en disant savez-vous que ça donne le droit à des indemnisations. Puis à l'époque, il y a personne qui savait ça au Canada, c'était moins de 2% des gens qui avaient subi un retard qui étaient éligibles, qui en faisaient la demande auprès des lignes aériennes. Donc, ça a parti un petit peu en flèche puisque les médias, quand ils se sont rendus compte qu'il y avait un organisme, une entreprise qui défendait les consommateurs, qui informait des droits et qu'il y avait des droits qui existaient depuis plusieurs années et que personne n'était au courant, ça a fait le tour des médias. Donc, c'est un peu comme ça que ça a parti.
Ça, c'était un hasard que le coup de PR comme ça est arrivé ou c'était quand même quelque chose que...
Ben, en fait, c'était un hasard parce qu'on savait pas que ça allait arriver. On venait de fonder l'entreprise. Par contre, quand c'est sorti dans les médias, j'ai un de mes collègues, un des cofondateurs qui m'a appelé le matin. Il a dit, il faut absolument que tu contactes la journaliste, tu lui dises qu'on vient de partir en entreprise, okay, qui vient en aide aux passagers. Donc, évidemment, c'est ce qu'on a fait dans la même journée. Puis le week-end d'après, là, on avait deux pages en presse. En fait, c'est trois pages dans la presse qui parlaient des indemnisations pour les vols et de notre entreprise.
Donc, avec le lien directement qui pointe vers le site web, une belle campagne de pub gratuite.
Écoute, c'était complètement fou. Donc, je dirais que ça a été un des moments importants. On a eu plusieurs autres moments, évidemment, là, quand on a mis ça en place, on a dû transformer l'entreprise. On s'est rendu compte qu'il y avait un cadre légal qu'on devait respecter. On a dû transformer un peu en structure de bureau d'avocats, aller chercher des avocats à l'interne. Donc ça fait partie de l'apprentissage. Dans les moments marquants, il y a eu les publicités dans les aéroports canadiens. Donc on avait une entente de 2 ans avec l'aéroport de Montréal. Après 4 jours, ils retirent nos campagnes de publicité suite aux pressions des lignes aériennes. Donc ça a été un moment fort parce qu'après ça, tous les médias au pays en ont parlé, même dans plusieurs pays. Je pense qu'on a touché 62 millions de paires de yeux là, dans la semaine qui ont suivi, suite aux articles là, des médias.
Est-ce que ce scandale-là, parce que est-ce que vous êtes considéré un peu comme ennemi des vols aériennes? C'est-tu un petit peu ça qui se passe? Ou...
Ben, on n'est pas ennemi. Je pense que c'est à deux niveaux. Je pense que d'une part, les lignes aériennes, je pense pas qu'ils apprécient le fait qu'on fasse connaître les indemnisations possibles aux passagers alors que c'était très peu connu avant. Mais d'une autre part, je pense qu'ils sont contents quand ils reçoivent un dossier de chez nous parce que c'est des dossiers qui sont bien montés. Okay. Donc ça, je pense que ça leur fait plaisir. Et ultimement, c'est les mêmes clients. Donc le client qui a eu une frustration, qui a vécu un moment qui était pénible, puis qui reçoit une indemnisation. T'sais, nous, souvent, on a des clients qui nous disent « Ah, plus jamais, je vais reprendre telle ou telle ligne aérienne. » Puis quand ils reçoivent leur chèque, après ça, ils sont prêts à reprendre la même ligne aérienne.
Oui.
Donc, évidemment, je pense que ça a du bon pour tout le monde. Donc, c'est des solutions qui sont gagnant-gagnant.
Intéressant. Donc, on est sur hyper-croissance. Donc, justement, on essaye de regarder un petit peu votre évolution, votre acquisition. Est-ce que vous êtes en mesure peut-être de nous situer, partager les chiffres de croissance dans la dernière année, juste pour que les gens aient l'idée à quel point que vous êtes en croissance rapide en ce moment?
Au niveau de la croissance, nous, la croissance qu'on vit présentement, c'est de 300 à 500 % mois sur mois. Donc, plus les gens entendent parler de nos services, plus ils font appel à nous. De plus, la loi nous permet de retourner 3 ans en arrière. Donc, évidemment, les gens qui apprennent qu'on existe, qu'il y a des compensations possibles, puis qui ont 3 ans pour réclamer, donc ils nous contactent. Ce qui fait que, évidemment, ça apporte une forte croissance au Canada, mais aussi ailleurs dans le monde, parce que maintenant, on a des sites là ça, dans d'autres pays.
Si on regarde il y a un an de ça, les chiffres de mois à mois, est-ce que c'était similaire ou là, ça avait vraiment changé?
Ben, en fait, quand on regarde, là, t'sais, nous, le mois passé, on a fait probablement plus que toute l'année passée. Donc, ça vous donne une idée là, de la courbe de croissance qu'on okay. vit. Donc, évidemment, là, c'est exponentiel. Puis, ça va se poursuivre parce que là, la loi, le cadre légal change au Canada. Présentement, c'est surtout les vols européens, la législation européenne. Maintenant, tous les vols canadiens vont être éligibles, donc en provenance, en direction ou à l'intérieur du Canada. Donc, c'est un marché 10 fois plus grand qui est en train de s'ouvrir. Là,
okay. Et sachant ce qui s'en vient, est-ce que vous avez des attentes en 2019, des projections?
On a des super projections. On espère bien les réaliser. Mais faire sa part, oui. En fait, même qu'il faut se préparer, évidemment, oui, le marché va s'ouvrir, mais la compétition aussi. Mm-hmm. Donc là, on a la chance d'être les premiers, les seuls au Canada. Par contre, ça existe. Il y a des grosses compagnies aux États-Unis, en Europe. Donc, ils vont regarder le Canada attentivement. Ils vont vouloir amener s'installer ici. Donc, ça nous laisse très peu de temps pour gagner notre notoriété puis éduquer les passagers. Mm-hmm.
Parce que moi, qu'est-ce que je trouve fascinant, on s'entend de vivre une augmentation, une croissance de 300-500% mois à mois. C'est énorme. Je veux dire, les gens vont se frotter les mains de doubler l'entreprise en un an. Donc, c'est énorme. Puis moi, je me demande à quoi attribues-tu cette croissance-là? C'est-tu des stratégies marketing que vous avez fait? À quoi t'expliques finalement cette croissance-là qui est assez phénoménale?
Il y a plusieurs facteurs. Je pense qu'à la base, c'est qu'on répond à un besoin déjà là. Donc, ça apporte cette croissance-là. Ensuite de ça, on a un modèle d'affaires qui se vend bien. On vient en aide aux gens. Donc, évidemment, les médias en raffolent. Dès qu'il se passe de quoi dans le monde aérien, on est cité ou on est appelé à commenter. Donc, je pense que ça apporte beaucoup. Ensuite de ça, c'est d'avoir les bons partenaires. Donc, évidemment, ça fait partie un petit peu de notre apprentissage. Il y a eu beaucoup d'essais-erreurs. En fait, quand on commence, on est une toute petite équipe, donc on fait beaucoup affaire avec des partenaires externes. Bien, de trouver les bons partenaires, c'est pas facile, surtout quand c'est sa première entreprise. Donc, on essaie des entreprises. Il y en a qui ont des meilleurs fits que d'autres, puis il y en a qui performent mieux que d'autres aussi. Et évidemment, quand ils vous vendent le service, bon, ils se présentent toujours comme étant les meilleurs. Mais parfois, on se rend compte que c'est pas dans les livrables, ça se passe pas toujours comme ça. Donc, de trouver les bons partenaires, c'est précieux. Évidemment, moi, je les considère pas comme des fournisseurs de services, je les considère vraiment comme des partenaires parce que ça se passe des deux sens. Puis les gens qui nous font grandir, on les fait grandir aussi, mais c'est dans cette optique-là qu'on le fait et non pas juste on achète un service et eux nous fournissent un service. Donc, on recherche vraiment cet esprit-là auprès des gens avec qui on travaille.
Et dans vos canaux à l'heure actuelle, est-ce que vous êtes en mesure d'identifier des stratégies plus performantes que d'autres dans les deux dernières années, de dire, OK, ben, en ce moment, pour nous, ça fonctionne vraiment bien. Puis peut-être d'expliquer, si c'est le cas, là, peut-être ce que vous faites pour que ce canal-là soit fonctionnel pour vous, ce canal-là soit fonctionnel pour vous.
Oui, ben, ce qui est particulier dans notre entreprise, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup basé, comme je mentionnais, sur la législation européenne. Donc, on peut pas faire du mass marketing parce qu'ultimement, nous, c'est 3% des gens qui prennent un vol européen qui vont subir un retard important ou une annulation. Donc, évidemment, on peut pas lancer des messages à la radio sur des heures de pointe ou à la télévision parce qu'on va vraiment, tu sais, on va funnel down pour trouver notre client. Ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec les médias sociaux, par exemple, ou encore avec l'achat de mots-clés avec des mots spécifiques. Donc, on devait travailler un peu cette stratégie-là. Maintenant, bon, on va aussi changer notre stratégie parce que là, avec la nouvelle charte, tous les vols canadiens vont être éligibles. Ben là, on va faire une autre sorte de marketing où est-ce qu'on va tomber beaucoup plus dans le mass marketing, qui est un autre aspect qu'on connaît beaucoup moins. Donc, on doit planifier, qu'on doit trouver des partenaires pour le faire. Donc, c'est toujours d'apprendre à bien connaître son environnement et comment est-ce qu'on peut le maximiser.
Fait que dans le fond, c'est de voir évoluer l'entreprise. L'entreprise va arriver à des nouvelles réalités. Les stratégies à partir de ce moment-là vont devoir changer, vous allez devoir vous adapter. Et quand on parle, fait, si je comprends bien, dans le fond, c'est 3% des gens qui sont votre client potentiel. 97% des gens, vous ne pouvez rien faire pour eux, c'est ça?
Ben non, c'est bien moins que ça. C'est 3% des gens qui prennent un vol européen. Donc, si on regarde la population, puis qu'on dit, puis je vous lance les chiffres en l'air comme ça, mais 50% des gens voyagent.
Oui.
Sur ce 50%-là, il y a peut-être 15% des gens qui voyagent en Europe. Parce qu'il y a beaucoup de voyages aux États-Unis ou dans les Caraïbes. Donc, de ce 15%-là, du 50%, donc on est rendu à 7,5%, il y a seulement 3% des gens qui vont subir un retard important ou une annulation. Donc, 3% de 7,5%, là, en calcul comme ça, ça fait un infime petit pourcentage. Donc, c'est 0,0.00 quelque chose % de la population. Donc, évidemment, ce qui nous permet pas aujourd'hui de lancer des messages dans des réseaux de masse. Là.
Mais c'est quand même intéressant de voir, de se dire, OK, sur un segment de marché aussi petit, on est capable d'avoir une entreprise florissante qui grandit. Parce que vous êtes combien d'employés ici, Jacob?
Aujourd'hui, on est 10. On a 3 postes ouverts présentement, puis on va être à 13, donc dans les prochaines semaines.
Donc quand même, c'est une entreprise de 13 personnes prochainement avec une infime partie de marché. Fait que je trouve ça assez fascinant de voir, quand on parle de croissance, le potentiel qui peut arriver avec la législation. Et est-ce que tu peux nous partager un petit peu une stratégie? Parce que j'imagine que là, bon, vous savez ce qui s'en vient. Qu'est-ce qui va changer? Bon, on a parlé de mass market, mais si on rentre dans le concret, est-ce que tu peux nous partager? OK, on va faire un coup de pub de cette façon-là, on va faire telle affaire, on va s'y prendre de telle façon. Qu'est-ce que vous avez vraiment spécifiquement en tête?
Bien, ce qui est différent, un, c'est les budgets. Évidemment, comme le marché s'ouvre énormément, nos budgets marketing s'ouvrent énormément aussi. Donc, on injecte beaucoup plus d'argent, d'une part, ce qui nous permet de faire des plus grandes choses. Donc, évidemment, on garde les stratégies qui fonctionnent bien, qu'on utilise déjà, mais on va bonifier notre stratégie. On regarde beaucoup tout ce qui touche la radio, la télévision, des panneaux publicitaires, de l'affichage, donc tout ce qui va toucher plus l'ensemble des consommateurs plutôt que de trouver les gens spécifiques sur Internet.
OK. Ben oui, c'est vrai, j'ai vu un panneau sur l'autoroute 20, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça se peut?
Oui, en fait, ça, c'est une histoire très drôle. On parlait de jalons tantôt. Quand on s'est fait retirer nos publicité à l'aéroport. Il y a un monsieur qui nous a contacté et qui a dit, écoutez, moi je trouve ça bien plate qu'on vous retire vos publicités. Il dit, moi, j'ai déjà subi des problématiques de vol. Et puis, ça donne que j'ai une compagnie d'affichage, puis j'ai des panneaux sur le bord des autoroutes, puis je vais vous en donner un pendant un an.
Okay,
on a eu un cadeau pendant un an sur un panneau, donc effectivement.
Aïe, aïe, ça, c'est bon. J'adore ça. Avec un client satisfait qui vous fait une petite offrande.
Exact.
tu sais, de 300 à 500 je reviens à ça parce que je trouve ça assez fascinant. Est-ce que c'est possible de soutenir une croissance aussi forte?
En fait, c'est possible si on automatise. Nous, la clé de la croissance, de soutenir cette croissance-là, c'est d'automatiser le plus possible le processus pour pas avoir une usine à gaz derrière de gens qui vont traiter des réclamations, mais plutôt que ça soit de plus en plus automatisé, qu'il y ait de moins en moins de traitements manuels et d'efforts humains derrière.
OK.
Donc, la clé de notre succès puis la clé du modèle d'affaires, c'est vraiment de passer par l'automatisation et d'avoir des systèmes qui sont de plus en plus intuitifs et intelligent aussi.
Ben, si on donc dans le fond c'est un petit peu un processus qui va être complètement automatisé. C'est une espèce de machine que vous créez finalement qui va faire tout le processus sans qu'il y ait d'humain qui aille à le gérer directement, c'est ça? Il n'y a pas d'implication humaine?
Presque. Aujourd'hui, je dirais qu'on automatise environ 70%.
Okay.
Notre but est d'arriver vers les 90%.
OK. Fait que ça va être une. Y a-t-il d'autres choses de votre côté, d'autres piliers que vous devez absolument peaufiner ou investir pour être capable de soutenir cette croissance-là?
Au niveau de la croissance, c'est vraiment au niveau de l'automatisation. Donc, on continue dans cette vision-là. Évidemment, on regarde des produits pour se démarquer aussi. Puis je veux pas trop rentrer dans le détail là-dedans parce que c'est des choses qu'on est en train de réfléchir présentement. Mais évidemment, avec la compétition, on veut aussi avoir un produit qui se démarque. Donc, aujourd'hui, on a la chance de pas en avoir. On sait que demain, ils vont en avoir. Donc, on travaille sur des solutions technologiques qui sont avant-gardistes, je dirais.
Ah, très, très nice. On parle toujours que on apprend de nos erreurs. Puis j'imagine, bon, dans les deux dernières années, j'imagine qu'il y a eu quelques erreurs que tu as commises. J'aimerais ça que tu me racontes l'histoire d'une leçon qui t'est arrivée, que tu as appris à la dure ou pas, peu importe, puis qu'aujourd'hui, tu en tires une leçon inestimable.
Ouais, ben je pense que les plus grandes leçons sont souvent celles qui font le plus mal. Évidemment, moi, je suis nouvellement entrepreneur, nouvelle entreprise. Bon, on se lance dans un nouveau type d'entreprise. Donc oui, on apprend énormément. J'ai appris plus dans les deux dernières années que dans les dix années précédentes. Donc évidemment, il y a beaucoup d'essais-erreurs. Il y a beaucoup de où on a appris beaucoup, c'est dans le choix de nos partenaires. J'en parlais parlais plus tôt, puis pourquoi c'est si important aujourd'hui de trouver des partenaires, c'est qu'on a eu des très mauvaises expériences finalement. Souvent avec, bon, une petite entreprise, on a beaucoup de partenaires externes ou des fournisseurs de services externes. On a fait beaucoup de sous-traitance, de technologique, si on veut. Puis de trouver les bons partenaires technologiques, c'est très difficile parce qu'il y a énormément de firmes en technologie, surtout à Montréal. Puis on en a essayé quelques-unes et on finalement ça a été des histoires presque cauchemardesques. Puis de plus que comme quand t'es une petite entreprise puis t'as un entente de service qui finalement te coûte 4-5 fois plus cher, qui prend 4-5 fois plus de temps, ça a des impacts sur ton entreprise parce que t'as une perte de coût d'opportunité, surtout une entreprise qui a une croissance comme la nôtre. Donc si on pense avoir un produit prêt pour une date, puis que finalement, un an après, c'est toujours pas prêt. Mais pendant cette année-là, on a perdu cette opportunité-là qu'on avait. Ce qui fait mal pour une jeune entreprise. Donc, évidemment, c'est le genre d'expérience qu'on a fait à la dure, là, je dirais, dans les deux premières années.
Et comment tu vas faire pour éviter que ça se reproduise? C'est quoi la leçon de ça?
Ben évidemment, la première leçon, je dirais, c'est pas qu'on va pas faire affaire avec des fournisseurs de services externes, mais aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que les services vont être faits à l'interne. Donc, que ça soit avec des gens qu'on engage à l'interne ou avec une firme externe, mais le travail va être fait sur place. Donc, évidemment, ça l'évite d'avoir plusieurs personnes différentes qui vont toucher au service. Et ça va se faire de façon continue, non pas en deux contrats de plus gros... le plus gros client d'une firme, par exemple.
Parce que j'ai quand même parlé à plusieurs entrepreneurs, puis justement, engager semble toujours là, dans la croissance un gros, gros, gros obstacle. Maintenant que tu sais que tu veux engager du monde avec des talents technologiques pour faire de la programmation, j'imagine, et tout ça, quand on parlait d'automatisation, c'est de ça que tu veux parler par technologie, on est d'accord?
Exact.
Où les trouver, comment les trouver, comment faire les bons choix. Est-ce que tu as un processus?
Ouais, ben en fait, oui, en fait, on a certains processus. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, nous, évidemment, une portion de nos effectifs, c'est des avocats. Donc, on engage des avocats qui quand même assez contingentés. Plusieurs firmes d'avocats, des gros bureaux d'avocats, alors que nous, on est une toute petite boîte, une start-up. Donc, comment est-ce qu'on réussit à attirer un peu le talent? Ben, je dirais que c'est deux façons. La première, il y a beaucoup de gens qui veulent travailler pour une jeune entreprise qui a de la croissance. Donc, ça nous aide.
Okay.
On a encore une fois un modèle d'affaires qui vient en aide aux gens. Donc, les gens sont un peu attirés vers ça. Deuxième point, je pense qu'on va mettre en place, c'est d'aller chercher une personne spécialisée qui va chapeauter les projets. Évidemment, moi, j'ai des connaissances limitées au niveau de la technologie. Je ne suis pas programmeur. Donc, d'aller chercher un CTO à l'interne, je pense qu'on est rendu là aujourd'hui, qui va pouvoir chapeauter, suivre les projets à temps plein, puis s'assurer qu'on a les bonnes personnes en place pour les faire, finalement.
Et toi, dans ton rôle dans tout ça, si on a parlé bon, de vol en retard, mais Jacob Charbonneau, il y a 2 ans, se lançait dans un univers qu'il connaissait pas, qui était l'entrepreneuriat, qui était avoir une business. Ça serait quoi? Tu sais, on parle tout le temps de c'est Dave Sullivan qui parle tout le temps de unique ability, tu sais, un peu ton pouvoir spécial, un petit peu qui te permet de faire ce que tu fais, puis que tu sens que c'est tes forces, tu performes dans ça et que tu veux le faire encore plus.
Je pense que je suis une personne qui est curieux et qui veut continuer d'apprendre. Donc évidemment, si tu pars une nouvelle entreprise, il faut que tu apprennes parce que tu connais pas tout.
Mm-hmm.
Et tu vas voir plein de situations que tu n'aurais jamais même pu penser qu'elle est arrivée un jour. Donc aujourd'hui, le fait d'apprendre à tous les jours et de m'améliorer à tous les jours, je pense que ça fait que l'entreprise s'améliore aussi à tous les jours.
Si tu avais aujourd'hui avec l'expérience, 2 ans plus fort d'expérience, tu étais capable de te voir, mettons, il y a 2 ans, en face, OK, j'ai un conseil à te donner, c'est ton jeune toi-même, pour éviter des problèmes ou pour aller plus vite ou peu importe. Un conseil, ça serait quoi?
Fou, c'est une bonne question, ça. Écoute, j'en aurais probablement un millier à donner à mon jeune moi d'il y a 2 ans. Ben écoute, je dirais d'avoir confiance en ses choix, tu sais, parce que quand on part une entreprise, on saute dans l'inconnu finalement, on saute dans le vide, puis on espère que on va prendre pied à quelque part. Ça a été un peu ça. Ce qui a aidé dans mon cas, c'est que j'étais bien entouré, donc j'avais des gens qui challengeaient mes décisions, j'avais des gens qui me conseillaient, et ça c'est très précieux d'avoir ces gens-là. Je dirais à n'importe quel jeune entrepreneur, c'est premièrement de bien s'entourer. Puis le reste va venir. T'sais. Le reste va venir, que ce soit l'argent, que ce soit les employés, la business, les clients. Si on est bien entouré, qu'on a un bon modèle d'affaires, le reste va suivre automatiquement.
Puis juste pour creuser encore un petit peu plus, parce que je trouve que c'est le conseil de bien s'entourer peut être facile à donner, mais dans l'exécution, où est-ce qu'on les trouve, ces bonnes personnes-là? Est-ce que c'est dans du réseautage? Est-ce que tu es sur LinkedIn puis tu vois quelqu'un faire une chose, tu essaies d'y parler directement? Comment ça t'arrive, ces rencontres-là, de personnes chères puis importantes pour l'entreprise, pour toi?
Je pense qu'il n'y a pas de formule magique. Ce qui a marché dans mon cas, c'est de m'impliquer dans plusieurs réseaux. Donc, que ça soit au MBA avec les gens avec qui j'étais dans ma cohorte, que ça soit, tu sais, je suis administrateur agréé, donc dans ce réseau-là, dans le réseau des MBA du Québec. Puis t'interagis avec plein de types de personnes, puis c'est de savoir qu'est-ce que tu veux aller chercher, puis de pas avoir peur de le demander. Donc évidemment, il faut s'entourer de personnes fortes et qui sont plus fortes que nous. Et souvent les gens qui ont peur de ça, de s'entourer, ça peut être a priori, tu sais, ça peut être des gens qui nous impressionnent. Mm-hmm. Mais si on s'entoure des gens qui sont plus forts, ultimement, on va devenir plus fort aussi, puis ça va faire notre force. Fait que c'est ce qui a fonctionné dans mon cas. Mais encore une fois, je pense pas qu'il y ait une formule magique de dire une chose est meilleure qu'une autre. Par contre, moi, de m'impliquer, ça m'a redonné beaucoup.
Très, très, très intéressant. Je prends des notes, j'adore ça. nous autres, sur Hyper Croissance, à la fin, je termine sur des questions éclairs. Donc, j'en ai 4 pour toi, puis tu me dis instinctivement qu'est-ce qui te vient en tête.
Excellent.
Tu parlais d'une chose tantôt, tu es curieux, quelqu'un de curieux, puis ça t'a aidé. Spécifiquement, qu'est-ce que tu fais pour te garder constamment à jour?
Ben, un exemple concret, présentement, on regarde beaucoup l'intelligence artificielle, qui est un domaine que je connaissais zéro. Évidemment, de nom, là, est-ce qu'on en parle, c'est à la mode, tout le monde en parle. On a trouvé une application, comment l'appliquer dans notre modèle d'affaires. Maintenant, je me penche beaucoup là-dessus présentement, que ce soit avec des cours en ligne ou avec des programmes, des incubateurs d'intelligence artificielle. Donc, on regarde beaucoup ça pour aller chercher de l'information que j'ai pas aujourd'hui.
Un incubateur, c'est comme un événement d'un week-end, un workshop, tu vas t'inscrire, puis c'est ça que t'entends par...
Non, au niveau des incubateurs, c'est vraiment des programmes spécialisés qui vont, comme là, on en regarde un présentement, c'est un programme de 8 mois, okay. Avec des mentors vraiment spécialisés en intelligence artificielle. Par contre, c'est une journée par mois, donc okay. C'est très peu de temps, c'est 8 jours, puis c'est vraiment deep dive au niveau de l'intelligence artificielle.
Deuxième question, est-ce que tu as un mantra qui va guider tes décisions en entreprise?
Ben, en fait, je regarde toujours si ça s'aligne avec notre mission d'entreprise puis avec nos objectifs d'entreprise. Tu sais, nous, c'est simple. On veut que ça soit simple, rapide et sans risque. Donc, chaque décision qu'on prend, est-ce que ça va nous aider à apporter cette solution-là au client? Est-ce que ça va aider l'entreprise à vivre sa mission de défendre les consommateurs puis de faire connaître les droits?
Troisième question, est-ce qu'il y a un livre qui a changé ta vie?
Ouf! Il y en a plusieurs, en fait. Dernièrement, un livre que j'ai bien aimé, c'est la biographie du fondateur de Nike. Puis c'est intéressant. Une des choses que j'ai bien aimé de son livre, c'est qu'il décrivait d'être en affaires, c'est comme une guerre sans balles. Donc évidemment, t'as des stratégies, t'as des compétiteurs, t'as plein de choses à mettre en place. Puis t'as des gens qui vont essayer de te nuire, t'as des obstacles à surmonter. Fait que ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis c'est une belle histoire. Puis aujourd'hui, on voit le succès de Nike. Ce qu'on connaît moins, c'est les premières années qui ont été très difficiles. Puis comment est-ce qu'ils sont arrivés à monter cet empire-là? d'une part. Puis, pour faire suite à ça, je lis présentement « L'art de la guerre ». Donc, évidemment, on dit que c'est une guerre sans balles. Bon, et c'est quoi les stratégies derrière? Donc, un livre que je viens juste de commencer, mais que je trouve c'est très intéressant.
C'est-tu... Tao Jun ou Sun.
Ouais, Sun Jiu.
Ouais, c'est un classique là, avec plein de parallèles en affaires. J'ai déjà entendu parler.
Exact.
Dernière question. Qu'est-ce qui est plus important à tes yeux, croissance ou profit?
Dans notre modèle d'affaires à nous et à l'étape où on est, c'est vraiment de la croissance. Aujourd'hui, on est en mode croissance, on réinvestit, on investit davantage, on fait des levées d'argent. On pourrait être rentable, en fait, on est rentable, mais on aurait pu être rentable avant et on pourrait être plus rentable maintenant et stopper plus notre croissance. Mais aujourd'hui, comme tous les parts de marché sont à prendre et qu'on a une opportunité en or, c'est vraiment de la croissance pure et dure.
Génial. Ben, Jacob, merci infiniment d'avoir participé au podcast Super Croissance. Ça a été vraiment, vraiment très intéressant.
Je t'en prie.
Maintenant, pour la plug, la fin, si on veut en apprendre plus sur l'entreprise, c'est quoi le site web?
volenretard.ca. Donc, sur l'entreprise, mais aussi sur les droits des passagers aériens. Donc, si vous avez un pépin ou si vous vous apprêtez à voyager, vous voulez connaître vos droits, il y a plein d'informations qui sont disponibles sur le site.
Et d'être affût de l'actualité parce que bientôt, peut-être, on va être encore plus éligible, c'est ça? C'est ça qu'il faut...
Exact. Donc, d'ici la fin de l'année, la nouvelle charte canadienne du voyageur va donner le droit à des compensations pour l'ensemble des vols en direction, en provenance ou à l'intérieur du Canada.
Super. Et si les gens veulent rentrer en contact avec toi, c'est où la meilleure plateforme?
Meilleure plateforme, c'est vraiment notre site Internet ou les médias sociaux.
Excellent. Donc, sur LinkedIn à Jacob Charbonneau.
Exact.
Super. Bon, mais génial. Merci encore une fois, Jacob, d'avoir participé.
Merci, Robin.
Bye, tout le monde. Et voilà, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Donc, deux points que je retiens aujourd'hui. La première chose, l'importance de faire un travail de niche. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, Volenretard aujourd'hui vive une ascension de 300 à 500 plus de clients à chaque mois. Et c'est parce qu'ils se concentrent sur les clients chauds, ceux qui sont prêts à acheter ici, maintenant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que J7 Media travaille avec Volenretard au niveau de la publicité Facebook. Et son travail de niche en ligne va se faire sur Google et va se faire justement avec J7 Media. La stratégie que l'on va utiliser avec la publicité Facebook, on est capable, par exemple, de cibler précisément toutes les personnes qui vont revenir de voyage. Donc, si par exemple, la personne est revenue de voyage dans les, disons, 90 derniers jours, on va être capable de lui envoyer une publicité ciblée l'informant des services de Volenretard. Donc ça, c'est une stratégie qui est mise en place qui les aide énormément pour aller acquérir une nouvelle clientèle. Et ils vont faire un petit peu l'équivalent sur Google. Ils vont pas miser sur un mot-clé de genre « vol Québec-Paris ». Ils vont acheter un mot-clé « compensation ligne aérienne »,« victime vol en retard ». Des requêtes qui sont très, très, très précises avec finalement en lien avec le problème que la personne va être en train de vivre. Donc, faire un travail de niche va vous permettre de passer à une vitesse d'hypercroissance. Deuxième chose que je retiens, comment faire pour aller chercher des personnes qualifiées, des partners intéressants, des alliés? Eh bien, Jacob nous l'a dit, c'est en s'impliquant dans un réseau de personnes qui vont nous ressembler, qui vont avoir les compétences qu'on recherche, va nous permettre de connecter avec ces personnes-là. Et du même coup, si on s'implique, on va apporter de la valeur à ce réseau-là. Les personnes vont voir de quoi qu'on est capable. Et du même coup, on va être capable de trouver des personnes qui ont un profil similaire à ce qu'on recherche. Petite anecdote rapide, je suis allé à une conférence la semaine dernière sur le e-commerce et l'invité, c'était Olivier Lambert. J'ai acheté un billet, j'étais dans l'audience, j'ai pas fait de bénévolat, mais juste le fait de m'impliquer physiquement, d'être là, d'assister à la conférence, évidemment, j'ai revu mon ami Olivier, j'ai jasé, mais du même coup, j'ai rencontré trois, quatre personnes avec des profils très, très, très intéressants. Et ces trois, quatre personnes-là risquent de devenir peut-être des partenaires potentiels sur différents projets, mais certainement, j'ai une personne en tête pour un futur invité sur le podcast. Donc, le fait de m'impliquer, d'être là, d'être présent, m'a permis de connecter. Donc, c'était les deux points que j'ai retenus de ma conversation. c'est quoi que vous avez retenu? Ben, vous pouvez m'écrire, justement, vous pouvez aller sur Instagram, m'écrire dans mes messages privés, me dire qu'est-ce que vous avez retenu de l'épisode d'aujourd'hui. Sinon, un rappel, donc l'épisode d'aujourd'hui, c'est une production de J7 Media. J7 Media, c'est une agence de publicité Facebook. On travaille avec Vol en retard. Si ça vous intéresse que votre entreprise ait à une vitesse d'hyper croissance, de faire du 200, 300, 500% de croissance à chaque mois, c'est possible avec les bons outils. Et J7 Media peut être là pour vous aider. Donc, si ça vous intéresse, rendez-vous sur le site internet de J7, J7, donc la lettre J, le chiffre 7, media au singulier.com. Donc, c'est ce qui conclut l'épisode. J'espère que vous avez apprécié encore une fois. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode d'Hypercroissance. Au revoir.